France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et scientifique aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leur pensée. Chaque semaine, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité, écrivain, a choisi d'évoquer l'œuvre d'un grand poète japonais. Un poète, je l'avoue, que je ne connaissais pas. De lui restent des poèmes, haïkus, de la prose, haïbun, des journaux et récits de voyage, Niki et Kiko. En somme, des fragments, ceux d'un pèlerin qui a voulu ne s'encombrer de rien pour s'absorber dans l'immensité des paysages japonais, c'était au XVIIe siècle et son nom, Matsuo Basho.
À peu près à la même époque où vivait Pascal, de l'autre côté de la planète, un Japonais au cœur tourmenté s'aventurait dans les voies qui mènent au plus profond de l'âme. Basho fit plus que se mêler au cœur des poètes lyriques, dont s'enorgueillissaient les 3000 îles sacrées. Par sa voix, c'est le Nippon lui-même qui l'exprima. Comme Pascal, le japonais Basho ressentit les affres et l'enivrement de la révélation mystique. En 1660, alors qu'il avait 16 ans, douloureusement atteint par la mort d'un ami, il se retira au monastère de Koya. C'est moins dans la prière commune ou dans l'ascétisme en cellule que vivaient alors les moines, que plutôt dans la méditation, la contemplation d'une nature admirable, le culte des livres et des œuvres d'art. Privé de sa maison, de ses livres et de ses beaux vases par l'incendie qui ravagea Heido en 1683, il trouva sa véritable voie dans celle d'un pèlerin pérégrinant, prêchant par son seul exemple la patience et l'humilité dans une allègre pauvreté. Avec deux ou trois disciples habillés comme lui de coton blanc, le chapeau de paille accroché dans le dos, il parcourut tout le Nippon, visitant les lieux saints de la légende, les lieux sacrés de l'histoire.
Bonjour Pascal Quignard.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur d'une œuvre multiple faite de romans, de contes, de listes, d'essais, de récits, de fragments. Je cite votre dernier livre, « Il n'y a pas de place pour la mort », paru aux éditions Hardy. Vous y parlez de Basho. On vient d'entendre une présentation de ce poète japonais par Maurice Percheron. C'était en 1954. Et je viens d'apprendre par Nicolas Berger, notre réalisateur, que non seulement Maurice Percheron est un auteur, mais aussi un ingénieur qui a inventé le drone. Donc, il était capable d'inventer le drone et de nous présenter Basho comme l'équivalent japonais de Pascal. Qu'est-ce que vous pensez de cette présentation de Basho? Voilà, l'auteur que vous avez choisi comme celui qui a marqué votre vie.
Vous voyez comment, au cours du temps, les images se transforment là, et aussi les voix. Vous avez vu l'articulation extrême de
c'est ça que j'aime bien.
Monsieur Percheron, c'est quelque chose de... Et il raconte un Basho qui n'est pas du tout le Basho que nous découvrons de nos jours, qui est retraduit de nos jours et avec l'attention qu'on peut y porter. Il en fait une figure morale, une figure de sage, alors que l'œuvre de Basho est une évasion, d'abord d'une condition de samouraï, puis il laisse entendre que sa hutte aurait été un palais avec des tas d'objets précieux, ce qui n'est...
Avec des œuvres d'art qu'il contemple, des bibliothèques incroyables.
Ce qui n'était pas le cas du tout. Et si vous voulez, mais c'est bien qu'il y ait plusieurs visages comme ça. C'est, la littérature aussi aime ces métamorphoses Mais je préfère, par exemple, j'ai la chance de recevoir, je ne connais pas Monsieur Alain Walter, mais j'ai la chance de recevoir, chaque année il m'envoie les traductions qu'il fait des journaux de voyage de Basho, et c'est pour moi, je les attends. C'est la fraternité qu'il y a, c'est la société sans société, si on peut dire. C'est la communauté des lettrés, des silencieux. Ils ne se rencontrent pas, ils ne se connaissent pas, mais ils reçoivent leurs livres et ils en sont enchantés.
Et ils se retrouvent autour de nouvelles traductions, de métamorphoses du texte. Moi, ce qui me frappe dans cette archive de Maurice Percheron, la voix évidemment, l'interprétation qui peut être d'époque, datée, on pourrait dire, de Basho, mais c'est le fait aussi de ramener Basho en fait à une figure occidentale connue pour essayer de le comprendre, pour essayer de percer un mystère, moi, j'aimerais que vous, vous me présentiez votre Bachot. Voilà, est-ce qu'on, quand on est voilà français, on est obligé d'appréhender en fait un auteur japonais en le situant non pas dans telle époque japonaise, mais vraiment au XVIIe siècle par rapport à tel courant intellectuel. Vous, vous le présenteriez comment ?
C'est tentant de présenter le XVIIe siècle japonais et le XVIIe siècle français de façon un peu semblable.
Oui.
C'est le moment, les samouraïs, les duels par exemple en France, l'interdiction de l'aristocratie de se mettre à mort mutuellement sous Louis XIII, c'est très proche de ce qui s'est passé aussi au Japon en récusant la classe des guerriers. Il y a l'idée, comment dire, d'une... Moi, si je prendrais assez volontiers, pas du tout Blaise Pascal, il en fait quelqu'un de très religieux. Bachot n'était pas du tout un moine. Il prenait l'habit de moine pour pouvoir se partir et mais il n'était pas plus croyant que enfin, je n'ose pas parler de vous mais que moi en tout cas je veux dire ça n'était pas c'était un
c'était je crois qu'on est pareil
ouais.
là-dessus
ouais, bah, alors, voilà, alors,
enfin, je peux non, pas préjuger mais d'après ce que j'ai lu de vous
il prétextait comment dire c'est moi si vous voulez le fond de ce qui me fascine dans cette œuvre c'est ce mouvement là c'est partir. Vous savez, c'est comme les chats qui n'ont qu'une idée quand ils sont en... C'est qu'une porte s'ouvre, qu'une fenêtre s'ouvre pour pouvoir s'évader. Mmh. Il y a, et en fait, c'est ça ce qu'a été Bachot. Et aussi, un autre point, littérairement, c'est l'invention d'un genre très particulier qui n'est qu'à lui et que je trouve qui me fascine et avec lequel j'aimerais peut-être même rivaliser, qui est de mêler la poésie et la prose d'un voyage, la prose d'un journal. Il a écrit, il a fait ces mixtes-là. Mmh. C'est un baroque à sa manière. Si on voulait prendre, pour reprendre, je ne prendrais pas Blaise Pascal, mais les mêmes années, au XVIIe siècle, je penserais à un musicien qui est Froberger, Johann Froberger. Parce que c'est quelqu'un qui, d'une part, est parti, il a parcouru l'Europe complètement à feu et à sang, les guerres allemandes, la guerre de 30 ans, la guerre civile anglaise, et il a raconté sa vie dans ses partitions musicales en disant « j'ai traversé la mer en grand péril, j'ai été volé à Bruxelles, j'ai été... » Chaque pièce faisait, comment dire, un morceau de musique, c'est l'aventure de cette... Comment dire, un virtuose qui se déplace comme ça dans le temps, peu importe les difficultés qu'il rencontre. Ça, voilà, c'est une figure, et qui ne veut à aucun prix être publié, c'est le cas de Froberger. Ça, c'est très curieux. Il n'a jamais voulu que son œuvre soit publiée.
Mais comment ça s'explique, ça?
C'est très difficile à comprendre. Je suis d'ailleurs, par parenthèse, très attiré par ce mystère des musiciens ou des écrivains qui ne veulent pas publier.
Et d'ailleurs, Bachot, est-ce que ça n'était pas un peu le cas ? C'est-à-dire que, pour le resituer un petit peu pour les auditeurs, auditrices, il est né en 1644, il est mort en 1694. Voilà, il a été guerrier, il s'est installé, il a commencé à apprendre l'art de la poésie. Si je le dis mal, vous n'hésitez pas à me reprendre. Et puis, bah, sa mère meurt. Il y a un incendie en 1683. Il est contraint, en fait, à quitter sa maison qui a brûlé. Donc, il est contraint à voyager. Et tout à coup, le voyage devient pour lui, en fait, qu'est-ce que ça devient d'ailleurs ? C'est-à-dire qu'en fait, la contrainte se révèle être un choix. Il décide jusqu'à la fin de sa vie de partir sur les routes et il rencontre de plus en plus de monde et il va leur offrir un petit peu son enseignement, son art de la poésie. Donc là, mais ça n'est pas lui vraiment qui a publié ses œuvres, c'est plutôt ses disciples.
Non, non, il est retravaillé encore, même au moment de mourir, il est retravaillé.
Ah, donc lui, enfin, il voulait être publié.
Oui, il le souhaitait. Mais vous touchez, le mystère, vous touchez, c'est pas vraiment un choix. C'est pourquoi, comment dire, une fois qu'il a connu cet incendie, en effet, pourquoi il ne pouvait plus rester 3-4 mois dans son ermitage. Il a voulu se retirer du monde. Moi, je dis ça parce que ça m'est arrivé. Moi, il parcourt ma vie depuis le début jusqu'à la fin. Depuis le début, bien sûr, pas le début, depuis...
Pas depuis votre naissance.
Non, pas depuis ma naissance. Non,
vous aussi, vous vous êtes retiré du monde à un moment donné, comme Bachot.
Oui. Et dans un lieu sans doute très semblable, parce que que je possède toujours, sur le bord de Lyon, hein, lorsque je l'ai découvert, il était entouré de bambous, c'était une petite maison de trois pièces qui donnait sur l'eau. Vous voyez, là, bon, j'étais vraiment au Japon, je n'ai pas Bachoumi revenu aussitôt en mémoire, et je me suis dit, j'allais. Et je ne pourrais pas répondre plus, ni pour Bachot, ni pour moi, pourquoi il m'a fallu, partir en Chine, par exemple, faire un pèlerinage sur le lieu où Chuang Tzu avait vécu, faire des pèlerinages comme ça, pourquoi aller à Avort, dans le Yorkshire, pour voir les lieux où Emily Brontë avait vécu. Ces sortes de pèlerinages que fait Bachot, pourquoi ce besoin de ne pas pouvoir rester alors qu'on prétend être un ermite, et pas du tout, on a un besoin de partir, un besoin de fuir. Vous voyez le mystère un peu.
Mais ça reste la solitude. C'est-à-dire.
Ça reste la solitude.
Dans la retraite, on veut être seul, non pas au milieu de la foule, mais seul, par soi-même. Et quand on part, on est aussi seul. C'est-à-dire qu'on entend dans les journaux de voyage que vous avez choisi, Pascal Quignard, que Bachot veut se dépouiller. Au plus, arrivé à presque rien, quand il parle de ce... C'est même devenu presque une obsession, vous ne trouvez pas, au fur et à mesure des journaux, n'avoir rien dans son sac qu'une robe de papier, qu'un chapeau de bambou, et puis une plume et quelques feuilles. Voilà, c'est ça qu'il veut, c'est une sorte d'épure totale. Il y a cette même solitude, mais la solitude presque, on pourrait dire le dépouillement, là.
Dans ces six beaux livres qu'il écrit, il y a une fête, peut-être, plutôt, je me trompe peut-être, c'est rentrer, c'est entrer dans l'origine, entrer dans le commencement, redevenir aussi nu qu'à la naissance, vous voyez, une sorte d'ascèse, pour essayer de rejoindre, la nature pour lui c'est l'origine, comme souvent pour les Japonais. Et cette œuvre-là est dédiée à cette... C'est comme s'il ouvrait la porte, chacun de ses livres ouvrait la porte sur le monde d'avant, la beauté du monde d'avant.
Mais je me suis beaucoup questionnée en le lisant cette semaine, en le découvrant grâce à vous, parce que moi, je ne le connaissais pas. En préparant cette émission avec Manon Delasselle, vous avez dit que vous aviez choisi Bachot, qui était un nom très connu. Moi, je ne le connaissais pas, je me sentis inculte. Et à un moment donné, en le lisant, je me suis dit, mais pourquoi il part? Moi, j'ai besoin qu'on m'explique, j'ai besoin qu'on me donne des raisons. Pourquoi il part? C'est quoi qui le porte? Vous me parlez d'origine, mais on pourrait peut-être... les gens qui font de la psychanalyse ont peut-être ça aussi en tête, sans partir de chez eux. Des gens qui font de la musique, sortent tout le temps aussi pour retrouver quelque chose de familial, de d'authentique dans la relation.
Oui, mais vous voyez, si je me pose la question à moi-même, même si j'ai fait moi une longue psychanalyse, bon, je ne saurais pas vous répondre vraiment. Pourquoi à 16 ans je fuguais? Pourquoi je sais très bien, quand je suis arrivé, comme on dit, à Dieppe, et j'ai cherché un travail à l'époque, j'étais tout jeune, et j'ai ouvert la porte d'une librairie, j'ai été, en 1964-65, libraire à Dieppe, je vois bien l'arrivée, je vois bien, lorsque les gendarmes m'ont remis dans un centre Léo Lagrange, je peux vous dire je n'ai aucun souvenir de mon départ. La fugue, je l'ai faite, mais je n'ai aucun... L'arrivée, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai du mal à vous répondre.
Est-ce que vous avez...
Je pense que Bachot aurait eu du mal aussi. Il y a là, une sorte d'appel. Mais appel de quoi?
Mais est-ce que vous avez le souvenir de vos sensations?
J'ai souvenir de tout, des sensations, par exemple, dans ce sentiment...
De liberté, de...
Non, j'étais trop angoissé pour pouvoir jouir de la liberté.
Donc vous êtes parti
à 15 ans,
et ça vous
savez, angoissait. On n'est pas encore fait pour être heureux à 15 ans.
Bah, à quel âge d'ailleurs, je me demande?
Si. Ça vient. À force d'évasion,
à force de fugue.
Le torse s'ouvre.
Oui.
Et on entre dans la nature. Et dans ce cas-là, même, le printemps devient génial. L'été, merveilleux. L'automne, splendide. Vous voyez?
Comme Bachot.
Oui, comme Bachot.
À quel âge vous avez découvert Bachot, Pascal Quignard? Est-ce que justement, vous nous parlez de votre appel, de la fuite, de la fugue? Plutôt de la fugue d'ailleurs. C'est pas pareil, tout à fait, je pense, de fuir et de
c'est
fuguer.
Pas pareil, du tout.
Donc, à quel moment vous découvrez Bachot? Est-ce que c'est à ces moments-là, en fait? Est-ce que vous vous dites, peut-être, trouverai-je dans la littérature quelque chose qui explique ce besoin de fugue?
Oui, peut-être, peut-être. Alors, je me souviens très très bien, je publiais, comment dire, en 1968, je publiais dans une revue qui s'appelait L'Éphémère, et qui était dirigée par Louis-René de Forest, par Paul Celan, par... Je trouve à la fin d'un numéro, je les ai plus, vous vous rendez compte.
Vous aviez 20 ans.
2026, 1968, ça fait quand même une distance. Je n'ai plus conservé cette revue. Et là, il y avait, comment dire, à la fin d'un numéro, une magnifique traduction de la Sente du bout du monde de Bachot. Déjà, le mouvement d'un bout du monde, le fait de, comment dire, décider de partir et d'essayer de rejoindre, comment dire, l'extrémité, m'a plu. Il y avait aussi un texte magnifique, aussi, un magnifique dialogue de voyage aussi dans la montagne de Paul Celan, qui était peut-être dans le même numéro. Ces textes-là m'ont fasciné. Mais il s'est revenu avec le temps. Jusqu'à maintenant, où Monsieur Alain Walter m'envoie ses traductions, et j'ai découvert un système de fragmentation. Vous savez, il y a une chose qui est un petit peu gênante dans tous les livres que vous avez là de Bachot devant vous, mmh. et qui sont multiples et qui sont très beaux. C'est une habitude française qui consiste à faire que les haïkus soient présentés comme des poèmes de trois vers.
C'est vrai, tout à fait.
Or, c'est faux. Au voilà. Japon, c'est une seule ligne, c'est un éclair. Mmh. C'est une seule ligne et un seul son. Et vous voyez, il y a une tricherie là, parce que c'est un fragment qui tombe du ciel. C'est un court-circuit, le haïku. C'est pas un poème. Il y a une différence entre un court-circuit et un poème. C'est maintenant, jadis, qui se confondent tout à coup. Et qui syncope. Et ça, c'est ce que j'aimerais faire.
Et vous avez l'impression d'y arriver?
Parfois.
Parce que vous dites, j'aimerais
parfois,
le faire.
Parfois.
Mais vous avez, vous faites justement, vous, c'est très difficile de présenter votre œuvre, Pascal Quignard, on n'est pas capable de dire, on peut dire que vous avez fait des romans, on peut dire que vous avez fait des récits, on peut dire, mais par exemple, votre grand cycle, on a vraiment un mélange comme ça de formes, vous avez écrit aussi sur le fragment, vous dites que vous aimez les formes mineures, les dictons, les sentences, donc en fait, quand vous dites que vous aimeriez le faire, ça veut dire que vous n'avez pas encore atteint là, c'est-à-dire cette, ce court-circuitage.
Parfois, j'ai l'impression d'y parvenir. Si vous voulez, il faut savoir mélanger ce qu'il fait. Je pense que c'est plus facile de le comprendre comme ça. Dans l'humanité la plus ancienne, la particularité des exclus, de l'exclusion sociale, ça a été les chamans. Et les chamans ont essayé d'apporter, comment dire, un voyage comme thérapeutique à tout problème. Il faut un voyage, il faut un carmen, il faut un chemin. Et Bachot, ou celui qui part, il cherche un chemin. Et quand arrive l'instant où, en éclair, rentre en contact quelque chose de très ancien, quelque chose de très actuel pour lui, il en est bouleversé. C'est ce qu'on appelle l'extase.
Partant pour un voyage de 1000 lieues, sans m'embarrasser de provisions pour la route, dans l'inquestionnable je suis entré sur la canne d'un ancien m'appuyant. Quand je quittais mon logis délabré près de la rivière, le petit vent inexplicable qui s'est levé m'a aussitôt glacé.
Dusse mes os blanchir, le vent pénètre mon corps jusqu'au fond de mon cœur.
Quand je poussais la barrière, la pluie tombait et les montagnes ne se voyaient plus à l'intérieur des nuages. Oh, cet enfant abandonné!
Dusse mes os blanchir, un des journaux de voyage de Bachot, 1684, lu par Nicolas Berger et Anaïs Isbert. Alors effectivement, on retrouve dans cette lecture, Pascal Quignard, le fait qu'il y ait d'un côté de la prose, c'est Nicolas Berger qui l'a lu, et puis tout à coup le haïku dans la voix d'Anaïs Isbert. Alors est-ce qu'on aurait dû garder la même voix pour éviter justement de mettre à part le haïku, mais faire ce court-circuit, cet éclair
C'était très beau ce qu'on a entendu.
Ah ben moi j'ai beaucoup aimé.
Moi aussi, c'est très beau et très bien dit. Et c'est bien peut-être que l'éclair soit plus féminin que et le parcours plus
masculin.
Avec la canne, avec la mule, les rênes.
Les eaux qui blanchissent justement.
Ouais.
Donc pour vous, cette il n'y a pas besoin. C'est pas une question de voix en fait. C'est plus une question presque de calligraphie, de mise en forme. C'est ce moment de surgissement de cette forme poétique. Parce que il faut dire pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas lu Bachot, on a l'impression que vous avez parlé d'extase, Pascal Quignard, au fur et à mesure des journaux. Bon, il y en a 7 dans l'édition que j'ai. L'édition Verdier et la présentation et la traduction de René Siffer. Au bout d'un moment, moi, je ne savais plus dans quel journal j'étais. C'est-à-dire, je ne sais plus où on est au Japon. Bachot passe son temps à me dire qu'il marche, qu'il voit telle montagne, telle rivière. Je n'arrive pas à me représenter le paysage. Donc, je décide à un moment donné de tout lâcher et de ne pas comprendre où je suis et juste de le suivre dans sa fatigue. Et puis, tout à coup, il y a effectivement cette mise en forme de haïku qui vient quand même me rappeler que il y a quelque chose qui se passe. Donc là, la mise en forme, pour moi, elle est importante. Je comprends qu'il se joue quelque chose. Et quand il dit dans ce texte, dans l'inquestionnable, je suis entrée, je me dis, ah ben ça, c'est la mise en forme de l'inquestionnable. Je comprends où Bachot veut m'amener. Et vous savez que j'ai besoin d'explications.
Non, mais oui, je comprends. Je ne comprends pas que vous ayez besoin d'explications. Ça, je trouve ça très, très excessif, trop philosophique pour moi. Je crois que la vie n'a peut-être pas besoin d'explications et que l'histoire non plus, et que le surgissement du soleil et le système planétaire non plus. Mais ça, c'est un autre.
En fait, le mot
que j'ai employé d'extase est peut-être excessif. Peut-être faut-il dire surprise. Il attend l'imprévisible. L'inquestionnable, là, c'est l'imprévisible. Je me suis posé la question, donc une question à la Bachot, dans ma vie pour le théâtre, pour des performances de ténèbres ou de théâtre que je fais. Comment pouvais-je introduire de l'imprévisible? J'ai trouvé un moyen qui est délicieux, que je vais recommencer d'ailleurs avec Marie Vial dans un mois, qui est de faire venir sur scène des oiseaux. Une chouette. Il y avait vivant,
des oiseaux qui peuvent vivre. Oui.
Pas
empaillé.
Et je vais faire revenir d'ailleurs aussi, comment dire, une corneille qui maintenant, à l'âge de 22 ans, j'espère qu'elle va me reconnaître, que le petit œuf noir de sa tête va me reconnaître.
Vous la connaissez depuis 22 ans?
Non, elle a 22 ans, je la connais depuis 15 ans. Mais elle vit dans une ferme près de Poitiers et je suis très heureux de... Vous voyez, là, et qu'est-ce qui se passe? Ah, et pardonnez-moi, je fais du bruit sur le...
Oui, vous pouvez.
Je fais des petits bruits de pas de corneille qui arrive comme ça sur scène. On ne sait pas ce qu'elle va faire. J'aime beaucoup, beaucoup quand les oiseaux ne volent pas parce que c'est aussi très étrange, quoi. Et puis, si elle grimpe sur moi, si elle joue avec mon étui à lunettes. Et voilà. J'ai amené de l'imprévisible. Ceux qui nous regardent dans un silence total se demandent aussi ce qui va se passer. Bon, ça, c'est aussi... le mot extase est peut-être fort, trop fort, mais le mot imprévisible ou inquestionnable, comme le dit. On voyage et on attend quoi? L'ébahissement. Vous voyez la recherche? Sortir de soi. En fait, c'est sortir de soi.
Et en même temps... Quand on cherche l'ébahissement, paradoxalement, je ne sais pas si ça vous fait ça, Pascal Quignard, mais on est face à un paysage et on se dit « Waouh, le paysage est dingue !» Mais on est en train de se dire qu'on est en train de voir un paysage qui est incroyable et donc en fait on revient en nous-mêmes parce qu'en fait on se dit qu'on devrait manifester de l'émotion. Vous voyez? C'est-à-dire que l'imprévisible tel que Bachot le cherche, tel que vous le cherchez et tel que vous voulez le provoquer, a ce tout petit paradoxe qu'on le force, qu'on qu'on l'intellectualise, qu'on veuille le créer à tout prix.
Ça tient au fait que tous ces lieux où il va faire pèlerinage sont des lieux sur lesquels les poètes anciens ont déjà écrit. Il veut rentrer en contact aussi avec les poèmes anciens qui louaient ces lieux merveilleux. Il y a la rencontre avec le lieu merveilleux, mais il y a aussi la rencontre avec les poètes qu'il aime et qu'il veut vanter et qu'il veut en effet indiquer, comme vous le disiez tout à l'heure, à ses propres disciples. Mais arrive là, ce qu'il y recherche, c'est précisément quelque, comme une vague soudaine, tout soit balayé d'un coup.
Mmh.
C'est ça qu'il cherchait. Et dans nos vies, c'est d'ailleurs très, très simple. Prenez cette expression tout à fait magnifique et d'ailleurs presque universelle pour désigner l'amour, qui est le coup de foudre. Mmh. Que la fulguration puisse être, comment dire, ce que y est attendu de nos vies, est très proche de ce que nous cherchons tous les deux péniblement à dire en ce moment.
Oui, mais parce que c'est presque indicible. C'est-à-dire, pourquoi finalement, en fait, la question, elle serait un peu banale, mais pourquoi vivons-nous? Qu'est-ce qu'on attend de la vie? Est-ce qu'on veut être surpris? Est-ce qu'on veut tout contrôler? Est-ce qu'on se dit qu'on peut soi-même...
Ah là, c'est vraiment de l'incontrôlable qui est cherché.
Voilà, hein. C'est ouais, ça. Ouais. Mais oui, mais tout le paradoxe de l'incontrôlable, c'est qu'en le cherchant, on le contrôle.
Non. Ça vous déborde. Non, il faut pas. C'est pas vrai. Il y a précisément, comment dire, le tonnerre, quelque chose qui
le
se dit. Il y a l'électricité, des choses qui font que ça s'arrache, que ça se déchire. Mm. C'est que ça se déchire de même que notre espèce, et pas seulement, de même que les fleurs, que l'invention absolument insensée de la sexualité plutôt que la reproduction cellulaire toute normale. Pourquoi a-t-il fallu une sorte de déchirure au sein du vivant pour permettre les fleurs, les arbres, puis les animaux, puis nous? Vous voyez, j'en fais pas une lignée du tout hiérarchique. Hein. Vous voyez ce que nous tous, ça part d'une déchirure, d'une sexuation.
Donc c'est essayer d'atteindre ce moment d'imprévisible
qui est notre origine,
d'origine, sans pour autant faire un grand récit des origines, donner des explications, c'est ça. Alors là se pose la question de la langue. Comment on fait pour restituer? Alors vous avez parlé, on a parlé de la mise en page, du fait de le lire, voix féminine, voix masculine, sur le mélange de la prose, du poème, du haïku, du haïbun. Comment on restitue cette quête de l'origine, le fait d'avoir l'impression de toucher du doigt l'origine sans tomber dans l'explication qui va tout figé à travers des mots qui sont quand même des conventions sociales aussi.
En faisant sauter la causalité, en faisant sauter, comment dire, l'explication, en faisant sauter, ça, tout de suite, l'idée de court-circuit, l'idée que je trouve absolument géniale dans l'œuvre de Bachot, c'est d'avoir voulu mêler, comment dire, une sorte de déambulation, qui n'est pas un discours, mais qui est quelque chose de physique, quelque chose qui on va pèleriner vers un lieu merveilleux et se laisser interrompre, uniquement pour se laisser interrompre par de l'incontrôlable. Vous savez, on peut quand même laisser passer l'incontrôlable.
C'est vrai, je suis trop rigide, je crois.
Mais pas du tout, je ne perdrai pas du tout de
non,
dire ça.
Non, c'est moi qui le dis. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même eu une école de Bachot, qui est l'école dite Schumann, donc une école littéraire quand même, alors qui repose sur trois principes. Je les donne, c'est le sabi, la sobriété de la contemplation, le chiari, l'harmonie, et l'osomie, la quiétude. Là, on a trois principes, mais en fait, quand on lit Bachot, il y a presque quelque chose d'indémêlable, d'inexplicable non plus. Les principes viennent figer quelque chose quand on entend le texte là. Le petit vent inexplicable. D'ailleurs, ça, c'est la traduction que vous nous avez proposée pour l'émission. Mais dans la traduction de René Siffer, moi, j'aime bien, il y a un petit vent frisqué. Moi, j'aime bien le vent frisqué. Et donc, en fait, ce serait presque... On ne peut pas pétrifier, en fait, cette langue pour restituer cet imprévisible à travers des principes. Il y a quelque chose d'incontrôlable aussi qui se passe.
C'est bien. Et votre goût est parfait parce que, comment dire, frisqué, en effet, c'est un mot simple et humble.
Mais oui.
Or, l'humilité et le caractère humble de Bachot s'en trouvent dans ce cas-là souligné. J'opte pour votre petit
mot frisqué. Vous êtes d'accord, c'est vrai que c'est le mot qu'on sort comme ça. Ah, il fait frisqué. Moi, j'adore ce mot. Oui. Ça dit tout. Ça dit mieux que petit vent inexplicable.
Oui, mais frisqué, c'est aussi un peu inexplicable. C'était peut-être pour souligner le côté, en effet, un peu imprévisible.
Oui.
C'est quelque chose qui avait dû... Le traducteur, je ne sais plus qui c'est. Vous savez,
Vous faites des mélanges.
Oui, j'ai toujours fait ça. Je picore ce qu'il y a de meilleur. Lorsqu'on tombe sur des œuvres qui ont des multiples et des multiples traductions, je vais vers le plus simple. J'aurais dû aller vers le frisqué.
Effectivement, je trouve que frisqué, voilà, ça dit quelque chose de l'humilité et même de simplicité.
Oui, qui est recherché complètement par cette œuvre.
Alors que juste avant, on a quand même, dans l'inquestionnable, je suis entrée. Bon, bah, déjà, on peut se dire de quoi il nous parle. Mais quand après, il y a le petit vent inexplicable qui s'est levé, on se demande si c'est quelque chose de métaphysique. Alors que si on nous dit que c'est un vent frisqué, on est tout de suite ramené sur Terre et on se dit, là, en fait, il ne veut pas être dans le monde éthéré des idées. Il ne veut pas nous donner la raison, l'origine du monde. Il va nous dire que tout se situe dans des petits détails comme ça, insignifiants.
C'est là où vous touchez vraiment, c'est ça. C'est un art du contraste. C'est en quoi c'est un baroque? C'est un art du contraste, de l'intensité du contraste. Et là, mais il faut souligner ce que j'essayais de dire sur le retour à l'origine, vers la nature et à l'origine. Parce que, à la fin de sa vie, bon, il est mort trop tôt, il est mort à 50 ans, il aurait voulu, il avait dit à son frère, de toute façon, qu'il voulait revenir au hameau d'enfance, c'est pas du tout un palais, hein, c'est une petite hutte. Il n'était pas vraiment une famille de samouraïs, il a été élevé au château par son condisciple que lui, qui lui, il était. Mais c'est donc beaucoup plus humble. Il a voulu revenir au village de son enfance. Donc il y a quand même une sorte de nostalgie de quelque chose. Et de nostalgie, une sorte d'humilité de la vie de l'enfance. Il y a une scène très belle. Il y a une scène très belle où il retourne, pas tout de suite, un an après la mort de sa mère, je crois. Il veut y retourner pour l'honorer. Je ne sais pas si vous savez, dans le monde japonais, on conserve toujours le cordon ombilical des enfants.
Bah on va écouter le texte.
Allez,
on l'a.
Je me tais.
Revenu au pays natal, pleurer ma mère morte, je trouve le vieux jardin crevassé par le gel. Tout est transformé. Les tempes de mon frère ont blanchi. Avec ses mains maladroites de paysan, il dénoue le cordon d'une bourse en cuir. Il me montre trois cheveux. Regarde les cheveux blancs de notre mère. On est entré dans la maison. J'ouvre le coffret de bois. Je touche le reste de mon cordon ombilical desséché. Je pleure. Petit cordon, tu étais à la limite de la mère et de l'enfant, comme le rivage entre la terre et la mer.
Dus Meso Blanchir, le même journal de voyage qu'on a lu tout à l'heure, qui date de 1684, et dans lequel Bachot raconte ce que vous étiez en train de nous dire.
Mais là, les deux haïkus n'ont pas été lus par la voix féminine.
Non, on n'a pas vu de haïku dans votre mise en forme, parce que ça n'apparaît pas dans l'édition de René Siffer, ce moment du cordon ombilical.
Chez Alain Walter, c'est très émouvant. Quand j'ai découvert ça grâce à Alain Walter, j'ai été très 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 ému. Est-ce que vous vous souvenez de ce très beau roman, terrible roman à vrai dire, de Tanizaki qui s'appelle La Confession impudique?
Non.
Non. Et dans ce roman-là,
je ne m'en souviens pas parce que je crois que je ne l'ai jamais connu.
Ce sont deux journaux intimes d'un époux et d'une épouse qui se disent leur méchanceté, leur jalousie et leurs écarts que par le biais de journaux intimes, chacun sachant très bien où se trouve le journal intime de l'autre.
Ah, donc ils se répondent.
Oui, c'est très très pervers, très très pervers. Or, où cache-t-elle l'épouse son journal intime? Dans le tiroir des cordons ombilicaux.
Oh.
Parce que c'est le lieu, c'est le trésor, c'est le lieu le plus secret de la maison. Dans l'enveloppe, il y a le petit cordon ombilical de l'enfant qui tombe 5 ou 6 jours après sa naissance, je ne sais plus.
Je n'ai plus de souvenirs, quelques jours en tout cas.
Quelques jours après. Et sur lequel on met le nom de l'enfant, c'est ce que la mère conserve comme une espèce, comment dire, c'est japonais, comme une espèce de témoignage.
Lien ?
Oui, d'un lien.
Oui, mais c'est marrant dans ce que vous racontez sur ces journaux intimes, parce qu'en fait, c'est comme si elle venait un peu souiller la pureté de ce lien mère-fils par les disputes conjugales.
Souillé, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Bon, le terme
humilié,
est peut-être un peu fort.
Humilié, parce qu'il y a quelque chose.
En tout cas, ça a lire quelque chose.
Le lien de Tanizaki avec sa mère, c'est un lien absolu et le propre de cette œuvre-là. Et ensuite, comment dire. Non, ce que je voulais dire par là, oui, c'est vous savez, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai parce que ce n'était pas du tout possible du temps. Pardonnez-moi, j'ai l'air d'être vieux tout à coup. Mais on m'a laissé entendre que dans certaines cliniques, par exemple, on faisait, comment dire, que la mère pouvait faire préparer et manger, comment dire, le cordon aussi bien que la poche.
Le placenta.
Pour des raisons peut-être biologiques, pour se redonner...
Nutritives.
Mais cette coutume-là, qui a priori m'a paru un petit peu féroce, je la trouve quand même bien supérieure au fait qui existait autrefois, où on jetait à la poubelle le cordon.
C'est ce qui se passe en France. Je crois qu'il faut faire une demande pour...
Mais c'est un peu vrai, vous avez entendu parler de ça aussi.
Il y a eu une mode, effectivement.
Vous ne l'avez pas fait, vous ?
Non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait cette démarche-là.
Donc, nous n'en saurons jamais le goût.
Mais moi, je n'ai pas du tout envie de manger quelque chose de moi-même, à part mes ongles de temps en temps. Vous voyez,
vous n'êtes pas comme le rossignol dans Ovid, alors.
Je ne mange rien qui vient de moi, sauf voilà un ongle de temps en temps. Et pourquoi vous avez voulu faire entendre ce texte-là, Pascal Quignard, de ce retour au lieu net ? Alors, c'est vrai que vous aviez dit, Bachot est parti. Parce que quelque chose peut-être du chez-soi, ça c'est moi qui le dis, mais de l'origine avait été perdu et donc il s'agissait de partir pour retrouver peut-être autre chose, une autre origine, plus ancestrale, plus archaïque. Mais là, il revient quand même chez lui. Il y a quand même un truc qui persiste du lien familial alors qu'en fait, il a tout abandonné. Bachot, il a tout laissé. Et les liens familiaux, il en parle à la fois avec beaucoup d'amour, on sent la force du lien. Mais vraiment, il n'est pas comme, il n'est pas aliéné par la famille, Bachot.
Oui, parce que vous le lisez ainsi. Mais vous voyez combien on vient d'entendre le texte de Bachot. Moi, je pense qu'il veut simplement dire « je ne reviens pas dans la maison ». D'ailleurs, par rapport au mot « frisqué », on aurait pu dire « voilà les trois cheveux de maman ».
Oui.
Ça aurait été encore plus simple et plus beau.
Oui, oui.
Mais
maman, c'est très bien.
Oui, ouais, mais c'est pour revenir à
oui,
ce que... À ce
oui,
que
oui.
Vous... Mais je pense que c'est ce qu'il veut indiquer, c'est pas du tout revenir à la maison de sa mère, revenir, comment dire, parler avec son frère, je pense qu'il en a été heureux. Mais je pense que c'est... le signe même, la surprise, c'est l'extase, c'est je vais vous montrer, il est possible qu'il y ait un lien entre la mère et l'enfant. C'est cela que je cherche dans ma poésie, un lien entre l'origine et moi. Ça peut être plus comme ça aussi, tout simplement. C'est pas la maison que je recherche. C'est pas la nostalgie de ce que j'ai vécu, des souffrances que j'ai connues quand j'étais petit. C'est simplement qu'il existe un passage possible de la mère à l'enfant.
Donc on retrouve la question de l'origine,
ouais.
Mais de retrouver...
Vous connaissez qu'on peut lire la scène comme ça.
Ah oui, mais je suis d'accord. Surtout me dire qu'on peut être surpris tout à coup. Alors ça c'est vrai, parce que parfois quand on revient chez ses parents, dans la maison dans laquelle on a grandi, si on a la possibilité de le faire, il y a quelque chose qui se passe qui est que tout est très familier et en même temps on est surpris. Quelque chose nous cueille, nous angoisse aussi de la surprise du lien qui persiste, non pas de manière aliénée, parce qu'on a souvent l'impression que les relations parents-enfants c'est de l'aliénation, c'est de la soumission, c'est de l'émancipation, mais que quelque chose persiste à ça de l'origine et nous surprend et on ne comprend pas vraiment d'où ça vient. Là, ça se passe à travers l'image du cordon ombilical. Mais parfois, ça passe juste à travers, on s'aperçoit de une habitude de notre mère qui mange les tartines d'une certaine manière et on se rend compte qu'on le fait aussi depuis des années comme ça et qu'il y a un lien qui perdure malgré tout. C'est pas une nostalgie, mais c'est juste se dire qu'un lien perdure.
Oui, c'est encore plus compliqué parce que ce qui est possible et merveilleux le premier jour, dès le lendemain devient insupportable.
Oui, alors ça c'est vrai. Je dirais plutôt 2-3 jours dans mon cas.
Ouais, mais non, mais...
Donc ce lien persiste. Comment vous interprétez dans ce texte qu'on vient d'entendre, Pascal Quignard, le « tout est transformé » ? Moi, ça m'a beaucoup fasciné, ce « tout est transformé », parce qu'on pourrait le prendre comme une phrase assez banale. Mais en fait, tout est pareil aussi. C'est-à-dire que son frère est là, le cordon est là, la mère décédée reste là malgré tout. En fait, c'est presque le contraire que nous décrit Bachaud. Rien n'a changé.
Il est revenu, il a fait le parcours. Il a fait le parcours. C'est très curieux. Je pense que c'est ça, la transformation. Vous voyez, vous prenez, comment dire, je me permets de faire une sorte d'apologue. Lorsque quelqu'un souffre horriblement d'une narration qui lui a été imposée à ses jours, il fait une psychanalyse et, comment dire, ce qui a un effet réparateur, c'est qu'on lui apporte, ou qu'il s'apporte à lui-même, une toute autre narration que celle à laquelle il avait été contraint. Arrive un troisième moment, disons le moment Bachaud, où on n'a plus besoin de narration. C'est ça qui est cherché dans ce texte-là. Je vous vois perplexe.
Non, je suis complètement conquise.
Lune et soleil, mois et jours, étranges hôtes, vous aussi vous êtes des voyages. Celui qui toute sa vie se balance sur un bateau, qui monte sur une barque, celui qui tient aux morts un cheval et s'en va ainsi au devant de la vieillesse, c'est du voyage qu'il a fait sa demeure. Nuages en lambeaux, mots qui s'écoulent et se rompent sur la page, pensées qui errent. Dans ma cabane délabrée au bord du fleuve, l'eau passe et inonde la grève. L'automne se fait plus sombre, les feuilles s'y effondrent et se mêlent au sable. Possédé par le dieu de la nostalgie, cédant au démon de la route, je ravaude mon caleçon de toile, je change le cordon de mon chapeau de bambou. Adieu.
Mon pied heurte la touffe d'herbe et dégage le vieux casque du guerrier. Et sous le casque, un grillon chante.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et nous parlons aujourd'hui en compagnie de Pascal Quignard de Bachaud. C'est votre choix. Là, on vient d'entendre son journal La Santé 3 du bout du monde de 1689. Vous m'avez dit quelque chose qui ne m'a pas du tout rendu perplexe juste avant la diffusion de ce texte, mais qui m'a conquise, le terme n'est pas le bon, mais qui m'a enlevé les mots, à savoir qu'il y a le moment Bachaud dans la narration de sa propre vie, celle qui nous est imposée, celle qu'on trouve par la psychanalyse, puis celle du moment Bachaud qui est le moment où on n'a plus besoin de narration. Pourtant là, on entend quand même que Bachaud continue à écrire.
Il est très riche, ce qu'on vient d'entendre. Parce qu'il dit aussi que le voyage est son œuvre.
Le voyage est son œuvre. Ouais. Le voyage est sa demeure.
Ouais. Le voyage est sa demeure.
Vous êtes des voyages. Oxymore. Ouais. Comment être et en voyage?
Ça m'émeut. Je repars de nouveau en tournée avec une japonaise, Yumi Fujitani. J'avais fait, comment dire, une tournée de buto aussi avec Carlotta Ikeda. C'est vrai que le Japon, dans ce cas-là, m'inspire cette possibilité d'une part de tourner, d'arriver dans des lieux qu'on ignore. Ne pas les visiter. Si vous voulez, c'est voyager, mais c'est le contraire du tourisme. C'est de flotter un peu. Et d'avoir une tâche le soir, une tâche un peu angoissante, de rentrer sur scène dans le noir et de quelqu'un danse, quelqu'un parle. J'ai essayé de trouver une formule aussi, comme cela, où le langage et le corps soient nettement séparés, pour dire la même chose. Et c'est quand même curieux. vous rendez compte, je n'aurais cessé de faire en effet du prendre appui sur cette. Vous comprenez pourquoi ça m'a touché quand j'ai lu ça quand j'avais 20 ans et cette façon d'aller au bout du monde, d'aller au bout de quelque chose, d'aller au bout du monde pour y rencontrer simplement une phrase du genre le voyage est ma demeure. Ce qui est quand même très différent par rapport à tous les sédentaires ou à toutes les frontières qu'on veut imposer à la planète.
Et surtout pour vivre, là on l'a entendu dans le texte, on parlait de vent frisqué, de maman au lieu de mère.
Les trois cheveux de maman.
Et les trois cheveux de maman, mais là il y a je ravaude mon caleçon de toile, je change le cordon de mon chapeau de bambou. Il faut dire quand même qu'à ce moment-là, Bachot est quand même sur un site historique. Ancestral, voilà, il parle du casque d'un guerrier tué à mort qui s'appelle Sanemori. Il voit ce casque, il est comme tout à coup l'incontrôlable, l'imprévisible. Il s'attendait à voir ce site, mais là quand même, il voit le casque. Il a l'impression de faire partie d'une grande histoire. Et puis tout à coup, qu'est-ce qu'il y a ? Un grillon. Alors dans la traduction de René Siffer, c'est ironie du sort dessous le casque. Chante un grillon.
Ironie du sort ?
Oui.
Oh, c'est très français, ça, je trouve. C'est trop français, non ?
Oui. Ouais. Mais ce qui rend. En fait, ça explicite presque trop.
Oui, ah oui. Et dans la traduction qu'on a donnée là, c'est quoi ?
C'est mon pied heurte la touffe d'herbe et dégage le vieux casque du guerrier, et sous le casque, un grillon chante. C'est à nous, en fait.
Oui.
De voir
la. C'est ça, la surprise, le contact, le court-circuit.
Le court-circuit entre ce détail de l'instant du grillon de la nature et ce moment historique.
Je ne parle pas des milliers de morts qui sont sur le champ de bataille. Je ne parle que d'un casque et du chant d'une un petit insecte. Oui, c'est ça, c'est exactement ça le haïku. C'est un éclair.
Vous avez dit, Pascal Quignard, que le moment Bachot, c'était un moment sans narration. Pourtant, Bachot continue à écrire. Vous continuez à écrire. Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'on peut écrire sans faire de la narration ? En plus, il y a ce terme à la mode en ce moment d'être dans le narratif en permanence. Donc, c'est quoi la différence entre écrire et la narration ? Comment on peut écrire sans narration ?
Voilà. Écrire une sorte de biographie, comment dire, sans narration, c'est « Il n'y a pas de place pour la mort ». C'est ce livre que je viens de faire. À savoir, on prend, on sait qu'il n'y a que des légendes et que des mensonges. Vous savez, les souvenirs, pour que nous les retenions, ça veut dire que c'est faux. Il ne peut pas y avoir de souvenirs vrais. L'oubli détravaille ce qui surnage est quelque chose, comme disait Freud, qui cache quelque chose. Un souvenir, ça cache quelque chose. Vous avez peur, vous faites des narrations, des consécutions, des explications, des démonstrations, et vous arrivez à trouver, par exemple, l'horreur de l'histoire que l'on retrouve comme j'ai vécu dans une ville en ruine quand j'étais enfant, pendant 7 ans en ruine, et c'est Mariupol aujourd'hui, donc ça n'a pas bougé, si vous voulez. C'est le même spectacle, j'ai cru que c'était la même chose. Bon. Ça n'a pas. Si vous faites une narration, vous dites une histoire, comment dire, il y avait raison, les Américains nous ont sauvés en lançant des bombes atomiques. Enfin,
vous avez vécu au Havre.
Oui.
C'est ça.
Mais si vous pouvez raconter, mais ce sont des narrations, ce sont des choses, ce sont des légendes, ce sont des légendes. Il y a bien un moment quand même, au bout de la vie d'un homme, où il doit bien se rendre compte, comment dire, que c'est inénarrable. Que c'est simplement, comment dire, de la vie et du chaos à l'état pur. Et qu'il faut, comme la nature, comme la poussée, comment dire, du Big Bang dans le ciel, le revivre aussi dans l'émerveillement et l'effarement que ça suppose. Vous voyez ce qui est recherché ? Ça, c'est du Bachot.
Et comment on écrit ça ?
On ne prétend à aucun moment que c'est vrai ou c'est faux. On quitte ce régime de la vérité et du jugement.
Donc il n'y a pas d'adverbe, par exemple, comme « vraiment » il s'était passé cela.
Non.
Jamais.
Non. Et souvent, quand quelqu'un dit « vraiment »,
c'est
exactement
vraiment.
La même chose que dire « je ne suis pas », ça veut dire « je suis ». Quand il dit « vraiment », ça veut dire « c'est faux ». Non, ça, c'est pas difficile.
Abandonner ça.
C'est pas difficile à déchiffrer.
Donc, abandonner les connecteurs logiques.
Oui.
Abandonner les signes de vérité et fausseté.
Vous savez, il y a une page, pardonnez-moi, c'est vous qui me conduisez à ça, une page que je trouve très belle et pas assez célébrée, pas assez honorée de Montaigne, qui est aussi quelqu'un qui est parti à cheval, comment dire, vers l'Italie, un peu comme Bachot.
Qui d'ailleurs écrivait aussi de manière à être surpris par...
Par gambade, par saut, exactement.
À saut et à gambade. Et
oui, c'est quelque chose qui est proche de ce dont nous parlons. Et cette page, il est très simple. Il dit « Je ne supporte pas Platon ». Alors, on se dit, tiens, pourtant il le cite tout le temps. « Je n'aime que le Phédon, parce que c'est un récit. Je ne supporte pas la dialectique, ce ne sont que des altercations. Les gens se disputent, je déteste ça. » Ça touche à la réponse de « il ne veut pas de cette articulation ».
C'est vrai que c'est insupportable les dialogues de Platon de ce point de vue-là.
Si on le vit comme Montaigne, oui.
Mais non, mais l'échange, c'est-à-dire on sait que Socrate va avoir raison à la fin et pourtant il oblige ses interlocuteurs à donner leur avis et qu'ils disent, ils passent leur temps à dire « certainement Socrate ».
C'est pourtant une œuvre absolument géniale que Platon. Mais
le Phédon est super, c'est vraiment sur la fin, de Socrate.
C'est un récit.
C'est un récit. Ouais. On va écouter un dernier texte de Bachot.
Depuis que je me suis retiré de la ville, près de 10 ans ont passé. Insecte qui a perdu son abri de paille. Colimaçon qui a quitté sa coquille. J'ai cheminé à grand-peine dans les dunes. J'ai blessé mes pieds sur les arêtes des moules et des rochers. Tel le grèbe, faisant confiance à l'ombre d'un seul roseau où s'est arrêté son nid flottant, vais-je ramper encore? Vais-je surgir encore? Vais-je sortir encore? Les restes du printemps s'attardent. Les azalées fleurissent toujours. Les glycines des montagnes festonnent les pins. Le coucou, toujours sans nid, toujours sans gîte, chante dans les branches, dans l'air si beau, dans la lumière du soleil.
Vous commentez, Pascal Quignard, on appelle ça des tapis ou des habillages sonores de Nicolas Berger.
À chaque fois, j'aime beaucoup. Et là, au début, il y avait des chiens. Là, il y a un coucou qu'on entend à la fin. Et ça fait penser à ceci. Que Bachot évoque le coucou, qui est précisément ce qui est sans nid, qui vole le nid des autres et qui, comme lui, vole les plus beaux paysages à la nature.
Il va de cabane en cabane, de l'habitant à l'habitant.
Mais il va de beauté en beauté à ses yeux, et de souvenir littéraire en souvenir littéraire. Il y a quelque chose de très. C'est le coucou du passé du Japon, si vous voulez.
Il tombe aussi sur des endroits où il est déçu. Ça, j'aime bien.
Mais la déception est une... On tombe de haut, c'est aussi une surprise. La déception est une surprise. C'est pas les meilleurs, c'est pas les plus. Mais le principal est la surprise. Le principal est comment dire que notre vie soit entamée par quelque chose, soit blessée par quelque chose. On ne peut détraumatiser qu'en traumatisant un peu davantage. Il y a de ça dans ce mouvement de Bachot et de repartir avec sa mule. Il a été rapatrié très tôt. Comme ça, il est mort. Bon, il n'est pas rentré. Il n'y a pas eu de destin. Tout est dans l'œuvre.
Pour finir, Pascal Quignard, on va avoir une. C'est à vous de choisir une musique. Est-ce que vous préférez une musique baroque ou une musique japonaise?
Le choix, je n'ai pas le choix. J'ai pas à prendre. La musique contemporaine m'est interdite.
Non, là, c'est déjà choisi, en fait. On a déjà une musique baroque ou une musique japonaise. Moi, j'aimais les deux, donc je veux vous laisser choisir, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit.
Est-ce que je peux savoir l'instrument? Est-ce que c'est un shamisen pour le japonais?
Non. C'est plutôt... Non.
Alors baroque. Sans ça, j'aurais pris... Les shamisen, vous savez ce que c'est?
Non.
C'est une peau de chat.
Ah!
Alors j'aurais pris... C'est trois cordes, et puis une peau de chat tendue.
Ah non, je ne connaissais pas. Je vais
tristesse.
Écouter ça après l'émission.
Oui, pas.
Vous avez choisi Louis-Nicolas Clérambeau, prélude infernale, mais quels nouveaux accords, Pascal Quignard, sans savoir qu'il s'agissait de ça comme musique baroque. Et ce qui nous permet d'introduire cette séquence de fin d'émission, vous avez évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, place à un auteur ou une œuvre que vous n'aimez pas et qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais vraiment, vous ne l'aimez pas. Qu'avez-vous choisi?
Une œuvre particulièrement?
Non, ça peut être une manière vous de raconter faire, une, un dictionnaire.
Non, je vais, disons le Don Quichotte de Cervantes.
Ah, merci! Ah, je déteste ça! Ça m'insupporte!
Je vais vous dire, c'est comme ça que j'ai créé une amitié indissoluble avec c'est très amusant que vous disiez ça.
Dans
les
duo.
Années 60, Dominique Horry, un jour m'a dit, c'était un grand succès à l'époque, comment dire, j'avais osé dire que je n'aimais pas, la littérature qui dénigrait les œuvres splendides du passé. Chrétien III, je ne retrouve rien de plus beau, et je n'aime pas le dénigrement. Et Dominique Horry, c'était juste après, il y a très longtemps, qui avait toutes les audaces. Histoire d'eau est un très très beau livre et plein d'audace. Mais qu'elle puisse me dire que j'avais été audacieux de dire que c'était une œuvre je n'aimais pas la méchanceté de cette œuvre.
Moi, j'aime pas le duo. Bon, j'y étais peut-être un peu fort en disant que je détestais mais je n'ai pas de plaisir de lecture. Ils n'avancent pas. On se moque d'eux en permanence.
Je n'aime pas les auteurs qui se moquent de leurs personnages, vous avouez, en général.
Vous pensez que Cervantes se moque de...
Bachot, moi, Chuang Tzu, Bataille, ou des tas de gens, ne se moquent absolument pas. Ils sont impliqués dans leur œuvre. Il n'y a aucune espèce de moquerie. Tandis que prendre de haut ces personnages, j'aime pas, par exemple, dans L'Émile ou de Rousseau, quand il adresse au personnage, il dit petite sotte, qu'est-ce que tu dis? Là, j'arrête. Je n'aime pas quand on se moque des personnages.
Merci beaucoup, Pascal Quignard. J'étais ravie de découvrir Bachot avec vous. De vous, on peut lire Il n'y a pas de place pour la mort aux éditions Hardy. Trésor caché chez Albin Michel. C'est le dernier tome en date de votre grand cycle dont j'avais oublié le nom. Pardon, c'est Le Dernier Royaume. Pour lire les journaux de voyage de Bachot, nous avons utilisé l'édition Verdier présentée et traduit du japonais par René Siffer. Mais c'est vous qui nous avez donné cette traduction qu'on a entendue, Pascal Quignard, faite à la fois aussi de la parution des journaux dans les éditions William Blake dans la traduction d'Alain Walter. Un grand merci à Manon Delasselle, Axel Dubois, Corinne Amar, à Nicolas Berger, à la réalisation, à Marie-Claire Oumabadi. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.